Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi le revue de presse, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir les amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici le journal et on commence avec le titre. 10 pays de l'Asie et le Timor-Oriental ont participé à la deuxième réunion des hauts fonctionnaires de 10 pays de l'Asie et Timor-Oriental. Le président Joko Widodo rencontrera Poutine en Russie. Voici le journal complet. La deuxième réunion des hauts fonctionnaires des 10 pays de l'ASEAN et le Timor-Oriental tenue à Nusa Dua, Bali, du 12 au 14 mai 2016. La réunion a été ouverte par le directeur général de l'enseignement primaire et secondaire, Hamid Mohamad, à Nusa Dua, Bali, le jeudi 12 mai 2016. La réunion de l'Organisation de la coopération entre les pays d'Asie du Sud-Est pour l'enseignement technique professionnel et la formation vise à discuter des questions de l'enseignement professionnel liées à l'enseignement technique professionnel et la formation, entre autres le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'intégration de l'industrie dans toutes les régions de l'ASEAN afin de promouvoir les ressources existantes dans les régions. Selon Hamid Mohamad, l'une des préoccupations de l'État est l'augmentation des actifs et la qualité de l'enseignement technique et la formation dans les États membres et comment les enfants dans chaque pays peuvent collaborer avec les enfants dans d'autres pays dans le cadre de la CEA qui avait commencé l'année dernière. Le président Joko Widodo tiendra une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite en Russie le 18 mai. Le directeur de l'Europe centrale et orientale du ministère des Affaires étrangères, Richard Sonohadji, a déclaré jeudi qu'en 18 mai, après une visite à Seoul en Corée du Sud, le président se rendra à Sochi, la Russie, et mènera la réunion bilatérale avec le président Poutine. C'est la première visite du président Joko Widodo à la Russie comme la partenaire importante de l'Indonésie. Selon Richard Sonohadji, lors d'une réunion bilatérale, le président Joko Widodo et le président Poutine discuteront des questions bilatérales, régionales et mondiales. Concernant la question bilatérale, ils discuteront la question économique, un effort pour élargir l'accès au marché pour les produits de qualité supérieure indonésiens, l'augmentation des investissements russes en Indonésie, notamment dans les infrastructures et l'énergie, la coopération de défense et de sécurité entre les deux pays. La province de Lampung accueillera la 6e conférence internationale annuelle sur les études islamiques AICIS 2016. Cette activité aura lieu du 1er au 4 novembre 2016 et axée sur l'Institut islamique Raden Intan Lampung. Le recteur de l'Institut islamique d'État IAIN Raden Intan Lampung, professeur Mohamad Mukrimak, lors d'une audience avec le gouverneur de Lampung, Mohamad Rido Fikardo, Abad Lampung le jeudi, a déclaré que cet événement a pour but de réunir des avants musulmans du monde et de l'Indonésie dans un forum qui discute et formule les contributions islamiques indonésiennes à la civilisation. Un autre but est la promotion de la richesse et l'unicité de l'islam local en Indonésie, en particulier la région de Lampung, dans la création d'un cadre mosaïque de l'islam indonésien et d'un Pacifique harmonieuse et tolérant. L'application du système de vérification de la légalité de BOA ou SVLK est obligatoire pour tous les produits fabriqués à partir de bois qui rend facile l'accès des exportations de meubles indonésiens, en particulier vers l'Europe. Le ministère indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, lors d'une conférence de presse à Jakarta, a déclaré que l'adoption obligatoire de SVLK pour tous les produits en bois pourrait avoir un impact positif sur l'industrie navale de transformation du bois, en particulier des meubles en bois. Cela peut se produire en raison de l'augmentation du niveau de confiance des acheteurs internationaux, principalement de l'Union européenne, que les produits de bois indonésiens ont garanti sa légalité. Il a ajouté plus tard, l'application de SVLK éliminera l'obligation de la diligence raisonnable, qui devient un fardeau financier pour les exportateurs qui ont été connus par des produits de bois indonésiens exportés vers l'Union européenne. De plus, la plupart de l'industrie du meuble en bois est la petite et moyenne industrie. Le Centre indonésien de la promotion commerciale ITPC à Budapest Hikmat Riyad a affirmé vendredi que l'Indonésie avait réussi à enregistrer la transaction d'un montant de 5 millions de dollars américains à l'exposition Sirha Budapest 2016 en Hongrie. Il est optimiste que le produit indonésien peut concurrencer au marché de l'Europe centrale et orientale. Il expliquait dans cette exposition, l'Indonésie était le seul pays participant de l'Asie selon lui, les hommes d'affaires qui effectuent des transactions avec l'Indonésie sont entre autres l'Italie, l'Espagne, l'Albanie et la France, la Roumanie, l'Irlande et la Serbie. Le pavillon de l'Indonésie a soulevé le thème vert et durable pour donner un message à la communauté européenne que les produits de l'Indonésie ont la bonne qualité et sont respectueux de l'environnement. Le dernier, le chef du conseil de coordination des investissements, Franky Sibarani, a dit qu'il avait reçu un signal positif du monde d'affaires australien. Au moins deux entreprises de divers domaines ont exprimé leur intérêt à investir en Indonésie. Franky Sibarani, jeudi, cité par Republika, a déclaré que les deux entreprises australiennes qui avaient montré un intérêt à investir en Indonésie avaient divers secteurs d'affaires. Alain et l'élevage bovin, les boissons gazeuses, l'hydroélectricité, la vente au détail des matériaux de construction à la construction navale et le service de dragage. À cette fin, la communication intensive entre les représentants du conseil de coordination de l'investissement à Sydney, l'ambassade d'Indonésie à Canberra, le consulat général d'Indonésie à Melbourne, le consulat général d'Indonésie à Perth et Darwin sera établi. Ainsi, cet intérêt d'investissement pourrait conduire à un engagement de l'investissement qui peut être réalisé à l'avenir. Ces amis, c'était notre journal aujourd'hui. À demain.
De divers événements importants qui se sont passés cette semaine sont résumés dans la revue de presse compilée dans nombre de quotidiens à Jakarta. Nous commençons avec le quotidien Kompas, qui, dans son éditorial, a écrit sur réaliser le statut d'être approprié pour l'investissement. La mise en œuvre lente du paquet économique rend le président furieux. Le président a demandé à son personnel de mettre en œuvre immédiatement les 12 paquets existants. Les critiques contre la mise en œuvre du paquet de la directive économique sont déjà largement exprimées par de divers milieux. Depuis septembre 2015, pas moins de 12 paquets étaient lancés dans le cadre de la déréglementation, débureaucratisation et d'intensifier l'économie. Malheureusement, l'agressivité dans la production d'un ensemble de mesures n'a pas été accompagnée d'agressivité dans sa mise en œuvre. La mise en œuvre lente donc devient l'une des causes de la difficulté dans l'investissement pour stimuler l'économie. Selon les données du Conseil de coordination des investissements, le niveau d'investissement est élevé, mais sa réalisation est très décevante. La mise en œuvre lente a également conduit, fait l'Indonésie retarder dans le niveau de la facilité de faire des affaires par rapport aux pays voisins. Selon Compass, le manque de coordination et l'absence de conducteurs devient l'un des points faibles dans la mise en œuvre de la politique qui, sinon pas être résolue, peut causer un déclassement si le ralentissement économique provient en capacité du gouvernement à surmonter les obstacles d'investissement prolongé. Couper les rangs qui n'ont pas réussi à démontrer la performance peut devenir une option inévitable. Le quotidien Business Indonesia a écrit dans son éditorial sur conjurer les crimes sexuels. Le cas des crimes sexuels contre les enfants est le phénomène d'iceberg. Seuls quelques cas sont révélés à la surface. La plupart des événements déchirants n'est jamais révélé et encore moins obtenir un traitement juridique adéquat. La tragédie des abus sexuels à Bengkulu récemment a secoué la conscience de la nation. Fâcheusement, de 14 auteurs présumés, 7 suspects sont encore mineurs. Cette semaine, un tribunal local a condamné 7 adolescents mineurs avec une peine maximale de 10 ans de prison en vertu de la loi sur la protection de l'enfance. Le verdict était la moitié de la peine maximale de 20 ans qui peut être imposée à un violeur adulte. L'événement sauvage à Bengkulu a suscité l'indignation et la colère de masse. Selon Business Indonesia, l'encouragement de pondération avec des sanctions supplémentaires démasculées et la publication de l'identité des auteurs, bien sûr, devrait être en effet dissuasif et de prévenir la réapparition de cas de violence sexuelle contre les enfants suivis par la torture et même assassinés. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du quotidien Média Indonesia sur garantir la réforme de PSSI. Une année après la suspension de l'unité de football de toute l'Indonésie, PSSI, par le gouvernement, le 10 mai 2016, elle est décongelée. Ce quotidien fait valoir la révocation de cette suspension ne soit pas la fin de la lutte contre la mafia qui a miné le football national. Précisément, c'est un nouveau départ pour la poursuite des réformes de la gouvernance du football en Indonésie pour qu'elle ne détienne plus la fixation des otages et la corruption. La révocation de la suspension de PSSI par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, devrait être un point vers une gouvernance financière transparente. Les réformes qui touchent tous les côtés, sombres dans le football national, doivent de roulements de plus en plus serrés. Les efforts pour construire une base de la gestion du football du pays qui est propre, juste, professionnel et excellé devrait être achevée. Selon Media Indonesia, la suspension de PSSI pendant un an serait inutile si nous ne garantissons pas que la levée de la suspension est suivie d'une réforme totale dans le PSSI. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, on écoute maintenant l'histoire d'aujourd'hui, le 14 mai 2016. On commence le 14 mai 1948, David Ben-Gurion a lu la déclaration de création de l'État d'Israël au public à Tel Aviv. Est une année historique pour les Juifs car elle est l'année de la déclaration de la création d'Israël. Le 14 mai 1948, un jour avant le mandat britannique en Palestine est terminé, le président de Yeshuv ou la communauté juive en Palestine, David Ben-Gurion, devant 250 personnes au musée de Tel Aviv, a déclaré la création de l'État d'Israël. Dans la déclaration, il ne mentionne pas les frontières de l'État d'Israël. Selon les données, les fondateurs de l'Israël ont convenu de ne pas mentionner les frontières d'Israël car le pays arabe autour d'Israël ne sera pas approuvé. On continue le 14 mai 1955, la porte de Varsovie a été signée par certains pays du bloc communiste. Le pacte de Varsovie est un accord entre plusieurs pays communistes européens. Il a été signé le 14 mai 1955 à Varsovie, en Pologne. Cet accord est également connu comme le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Les sept pays qui ont signé le pacte de Varsovie sont l'Union soviétique, l'Albanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. L'Union soviétique a lancé la porte de Varsovie en réponse à la formation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou l'OTAN. Initialement, les membres de la porte de Varsovie sont l'Union soviétique, la Bulgarie, l'Albanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. La République démocratique allemande a finalement rejoint en 1956. La porte de Varsovie a dissoute en 1991 en raison de la dissolution de l'Union soviétique. On termine le 14 mai 1991, Winnie Mandela a été condamné à 6 ans de prison pour l'acte de disparition forcée de 4 jeunes. Dans les années 1990, la Commission de vérité et réconciliation a déterminé Winnie Madikizela Mandela responsable des disparitions forcées de 4 hommes. Ce cas en était produit en 1980. mais son implication n'est pas prouvée à ce moment-là, bien que le chef de son garde, Jerry Richardson, à la commission de vérité et réconciliation, et un certain nombre de ses collègues, a affirmé qu'il avait été poignardé des jeunes hommes sur les ordres de Winnie. Le 14 mai 1991, la cour a finalement condamné à 6 ans de Winnie Mandela sur la disparition forcée de 4 jeunes hommes. Mais en appel, sa peine a été commuée en une amende. Ces amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui, ce soir, de l'édition 14 mai. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, la Banque islamique de développement continue l'aide de développement d'infrastructures. Le représentant de la Banque islamique de développement BID en Indonésie, Ibrahim Shukri, lors d'une conférence de presse le mercredi dernier à Jakarta, a rapporté, la BID a financé un nombre de projets en Indonésie dans quelques dernières années d'un montant de 4 milliards de dollars américains. Ce projet est dans les domaines de l'infrastructure, de l'amélioration de la haute éducation et du développement à la base de la communauté. Cette année, la BID a le plan de donner de nouveau le prêt. Le conseiller du ministre des Finances, le domaine de la macroéconomie et la finance internationale, Andine Hadianto, a le justifié, mais il ne peut pas encore annoncer la valeur du prêt qui sera obtenu. Cette chose sera discutée dans la séance annuelle de la BID à Jakarta du 15 au 19 mai 2016. Certains secteurs qui deviendront l'objectif principal de ce prêt sont les infrastructures physiques et sociales, comme la santé et l'éducation. Dans cette séance annuelle, la BID va mettre au point à discuter le développement de la banque charia, notamment la finance de l'infrastructure, soit la banque islamique d'infrastructure. Le représentant de la Banque islamique de développement en Indonésie, Ibrahim Shukri, a dit au futur, la Banque islamique d'infrastructure va financer tous les pays qui ont besoin de la finance, pas limité aux pays membres de la BID. C'est un effort pour l'expansion du réseau de financement à la base des charia au monde. Selon Ibrahim Shukri, le financement à la base des charia est prouvé d'être fort d'envisager les risques d'affaires, comme la crise globale, car le système est plus solide que la banque conventionnelle. La continuation de l'aide de la BID pour l'Indonésie sera signée par le gouvernement indonésien et la Banque islamique de développement à la réunion annuelle de la BID à venir. Une telle assistance sera utilisée pour 5 prochaines années dans le cadre du partenariat stratégique des pays membres de la BID. On met au point dans le développement de l'infrastructure, le développement humain, le système de financement charia et l'amélioration du rôle du secteur privé. Ibrahim Shukri a dit, la coopération avec l'Indonésie est très bonne. L'Indonésie a le rôle de développer la BID aux années 1970. C'est pourquoi la BID va se coopérer avec l'Indonésie dans 5 prochaines années. La séance annuelle de la BID a pour thème améliorer la croissance et lutter contre la pauvreté par l'intermédiaire du développement de l'infrastructure et l'inclusion financière. 2700 participants vont assister à cette 41e séance annuelle de la BID. Chers amis, c'était la mise au point.
La deuxième réunion des hauts fonctionnaires des 10 pays de l'ASEAN et le Timor oriental, tenue à Nusa Dua, Bali, du 12 au 14 mai 2016. La réunion a été ouverte par le directeur général de l'enseignement primaire et secondaire, Hamid Mohamed Anousadoua Bali, le jeudi 12 mai 2016. La réunion de l'Organisation de la coopération entre les pays d'Asie du Sud-Est pour l'enseignement technique professionnel et la formation vise à discuter des questions de l'enseignement professionnel liées à l'enseignement technique professionnel et la formation. Entre autres, le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'intégration de l'industrie dans toutes les régions de l'ASEAN afin de promouvoir les ressources existantes dans les régions. Selon Hamid Mohamed, l'une des préoccupations de l'État est l'augmentation des actifs et la qualité de l'enseignement technique et la formation dans les États membres et comment les enfants dans chaque pays peuvent collaborer avec les enfants dans d'autres pays dans le cadre de la CEA qui avait commencé l'année dernière. Le président Joko Widodo tiendra une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite en Russie le 18 mai. Le directeur de l'Europe centrale et orientale du ministère des Affaires étrangères, Richardson Hadi, a déclaré jeudi qu'en 18 mai, après une visite à Seoul en Corée du Sud, le président se rendra à Sotchi, la Russie, et mènera la réunion bilatérale avec le président Poutine. C'est la première visite du président Joko Widodo à la Russie comme la partenaire importante de l'Indonésie. Selon Richardson Hadi, lors d'une réunion bilatérale, le président Joko Widodo et le président Poutine discuteront des questions bilatérales, régionales et mondiales. Concernant la question bilatérale, ils discuteront la question économique, un effort pour élargir l'accès au marché pour les produits de qualité supérieure indonésiens, l'augmentation des investissements russes en Indonésie, notamment dans les infrastructures et l'énergie, la coopération de défense et de sécurité entre les deux pays. La province de Lampung accueillera la 6e conférence internationale annuelle sur les études islamiques AICIS 2016. Cette activité aura lieu du 1er au 4 novembre 2016 et axée sur l'Institut islamique Raden Intan Lampung. Le recteur de l'Institut islamique d'État IAIN Raden Intan Lampung, professeur Mohamed Mukrimak, lors d'une audience avec le gouverneur de Lampung, Mohamed Rido Fikardo, à Bandar Lampung le jeudi, a déclaré que cet événement a pour but de réunir des avantages musulmans du monde et de l'Indonésie dans un forum qui discute et formule les contributions islamiques indonésiennes à la civilisation. Un autre but est la promotion de la richesse et l'unicité de l'islam local en Indonésie, en particulier la région de Lampung, dans la création d'un cadre mosaïque de l'islam indonésien étant pacifique, harmonieuse et tolérant. L'application du système de vérification de la légalité de bois, ou SVLK, est obligatoire pour tous les produits fabriqués à partir de bois qui rend facile l'accès des exportations de meubles indonésiens, en particulier vers l'Europe. Le ministère indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, lors d'une conférence de presse à Jakarta, a déclaré que l'adoption obligatoire de SVLK pour tous les produits en bois pourrait avoir un impact positif sur l'industrie navale de transformation du bois, en particulier des meubles en bois. Cela peut se produire en raison de l'augmentation du niveau de confiance des acheteurs internationaux, principalement de l'Union européenne, que les produits de bois indonésiens ont garanti sa légalité. Il a ajouté plus tard, l'application de SVLK éliminera l'obligation de la diligence raisonnable qui devient un fardeau financier pour les exportateurs qui ont été connus par des produits de bois indonésiens exportés vers l'Union européenne. De plus, la plupart de l'industrie du meuble en bois est la petite et moyenne industrie. Le centre indonésien de la promotion commerciale ITPC à Budapest Hikmatria a affirmé vendredi que l'Indonésie avait réussi à enregistrer la transaction d'un montant de 5 millions de dollars américains à l'exposition Sirha Budapest 2016 en Hongrie. Il est optimiste que le produit indonésien peut concurrencer au marché de l'Europe centrale et orientale. Il explique que dans cette exposition, l'Indonésie était le seul pays participant de l'Asie selon lui. Les hommes d'affaires qui effectuent des transactions avec l'Indonésie sont entre autres l'Italie, l'Espagne, l'Albanie et la France, la Roumanie, l'Irlande et la Serbie. Le pavillon de l'Indonésie a soulevé le thème vert et durable pour donner un message à la communauté européenne que les produits de l'Indonésie ont la bonne qualité et sont respectueux de l'environnement. Le dernier, le chef du conseil de coordination des investissements, Frankie Sibarani, a dit qu'il avait reçu un signal positif du monde d'affaires australien. Au moins deux entreprises de divers domaines ont exprimé leur intérêt à investir en Indonésie. Frankie Sibarani, jeudi, cité par Republika, a déclaré que les deux entreprises australiennes qui avaient montré un intérêt à investir en Indonésie avaient divers secteurs d'affaires. Alain et les vaches bovins, les boissons gazeuses, l'hydroélectricité, la vente au détail des matériaux de construction à la construction navale et le service de dragage. À cette fin, la communication intensive entre les représentants du conseil de coordination de l'investissement à Sydney, l'ambassade d'Indonésie à Canberra, le consulat général d'Indonésie à Melbourne, le consulat général d'Indonésie à Perth et Darwin sera établi. Ainsi, cet intérêt d'investissement pourrait conduire à un engagement de l'investissement qui peut être réalisé à l'avenir. Ces amis, c'était notre journal aujourd'hui. À demain.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuerons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Maroc, en particulier la place Lampu Satu. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Le soleil se lève d'abord en Indonésie orientale, à savoir à Maroc. Non seulement cela, Maroc n'est pas également moins qu'ailleurs en Indonésie ayant de belles places. L'un d'entre eux est place Lampu Satu qui a une longue côte. Des palmiers alignés le long de la place semblent entre une barrière de place qui ajoute à la beauté. La place Lampu Satu est située dans la Villa Sputi. Le nom unique de cette place a été inspiré de par sous le côté de la place. La place Lampu Satu est une destination touristique cachée dans la ville marocaine. En plus de sa beauté, sa location dans la ville rend cette place bondée. De matin au soir, la place Lampu Satu attire les visiteurs. L'eau de mer dans cette place pourrait recouler aussi loin que 2 km. Après-midi, il est le moment qui est beaucoup choisi par les visiteurs, en particulier les jeunes. À ce moment-là, vous pouvez regarder les bateaux de pêche qui bordent la place, ainsi que des activités des pêcheurs avant de venir à la mer. Le plus entendu est la vue du coucher du soleil. de la place, vous pouvez voir le coucher de soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dans le même temps, si vous vous tenez à la face de la mer, vous pourrez profiter de la beauté de la lampe du parc aimé de la lumière. Il est un paysage exotique. La place Lambusato est située d'environ 3 km du centre-ville de Morocco, ou environ 10 minutes en voyage. Pour se rendre à la place Lambusato, vous pouvez utiliser les véhicules à moteur à deux roues, à quatre roues. Le prix d'entrée pour les véhicules à deux roues est seulement 5000 roupias, tandis que pour les véhicules à quatre roues, c'est 10000 roupias. Il est maintenant très facile de se rendre à Morocco. Cette ville est atteinte par un certain nombre de compagnies aériennes nationales. Une fois que vous arrivez à l'aéroport Mopar, marocain, pour continuer le voyage vers la place Lambusato, vous pouvez utiliser le transport public de la communauté marocaine appelé taxi. Le coût n'est pas cher, seulement 5000. En plus, vous pouvez également utiliser un service de moto-taxi de 10000 roupias. Autre les places, si vous voulez faire un tour de la ville de Maroc, vous pouvez également louer une voiture au prix d'environ 300 000 roupias par jour. Mes amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. À la même heure et même fréquence. Merci de votre fidèle attention. À demain.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « L'Indonésie en couleur » et les inondations qui ont fréquemment frappé le district de Bandung dans la saison des pluies étaient causées par beaucoup de terres critiques en amont de la rivière Citarum. Pour surmonter ces problèmes fonciers critiques, non pas seulement par la plantation d'arbres, mais elle doit être suivie par l'entretien des arbres. Associé à la plantation d'arbres et de zones critiques dans la partie supérieure du fleuve Citarum, ce soir, cette rubrique va discuter sur le public qui peut prendre un prêt bancaire avec des arbres collatéraux plantés et soignés. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Le Haut-Limon, dans les zones frappées par les inondations dans la région Bandung en province Java-Ouest, a montré l'étendue des terres est toujours critique dans la rivière Citarum. Il a fallu des efforts sérieux du gouvernement de la région Bandung et la communauté dans le traitement de la terre critique. La plantation et l'entretien des arbres qui ont été plantés devraient continuer à être encouragés. Pour inciter les gens en amont de la rivière Citarum de participer dans la plantation et l'entretien des arbres, le régent de Bandung publiera un certificat de la propriété d'arbres. Comme l'illustration, une personne aura 100 plants d'arbres. Sur les 100 plants, 50 semis vont appartenir à cette personne et seront émis une attestation de propriété des arbres au nom du dépositaire. Cependant, le reste de 50 plants appartient au gouvernement de districts et des villages. Le certificat sera délivré après l'âge des arbres et 6 mois à un an. Ce certificat peut être utilisé comme garantie des prêts de crédit de la Banque du Crédit Public appartenant de la région Bandung. Ces arbres ne doivent pas être coupés en dépit d'être détenus par la communauté. Les arbres peuvent être vendus au gouvernement de la région Bandung. Selon le régent Dadang M. Nasser, l'atténuation des inondations à Bandung devrait être faite par toutes les parties soit le gouvernement de la régence, soit la société. Travailler ensemble d'effectuer la gestion des catastrophes, en particulier les inondations, qui provoquent toujours la perte matérielle et non matérielle. Dadan a ajouté que la sensibilisation du public est l'une des solutions qui doivent être mises en œuvre complètement. Les gens sont interdits à jeter des ordures dans la rivière. En outre, on a besoin de mesures décisives contre les entreprises qui déservent des déchets dans la rivière. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Les amis, bonsoir. Voici le magazine de Palanginada, ou magazine musical de la voix de l'Indonésie, édition de samedi avec moi, Yubi Suryanto. Ce magazine présente des musiques indonésiennes telles que modernes, traditionnelles, dans lutte ainsi que mix. Pour cette édition, on vous présente un chanteur, Toulouse. Bon, pour mieux connaître Toulouse, allez d'abord écouter la chanson Jangan Cintai Aku Apa Adanya, chantée par Toulouse.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Untuk
J'ai jamais ce Windows, c'est-à-dire la durée de 8 ans. Cette chanson raconte sous la mur qui reste dans le cœur pendant 8 ans. Mais on ne peut pas s'exprimer. Le vrai nom de Toulouse, Mohamed Toulouse Rushdie, il aime chanter depuis son enfance. Il est né à Bukit Tinggi, en province de Sumatra d'Ouest. Mais maintenant, il reste à Bandung, la province de Jaffa de l'Ouest. On connaît Toulouse quand il a chanté souvent aux communautés de jazz et au campus à Bandung quand il était étudiante. Il a rejoint le groupe de musique Sikwe. En 2011, Toulouse a lancé son premier album sous réalisateur Harry Rinaldi, publié par sa propre maison de disques, Toulouse Records. Dans cet album, son frère participe aussi comme producteur exécutif. Les chansons de Toulouse telles que Sewindu, Teman Hidup, Kisah Sebentar, Tuan Nona Kaspian et Jatuh Cinta sont très populaires à la charte de musique au radio en Indonésie. C'est mieux avant d'écouter l'histoire de carrière de Toulouse, allez encore écouter sa chanson intitulée Seribu Tahun Lamanya.
Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun. Kecilmu bicara, kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.
Sesame, vous avez le magazine de Rolling Stones d'Indonésie a nommé Toulouse comme Editor Choice Rookie of the Year 2013. De plus, son album, premier album, s'est placé déjà au premier rang dans le chart de la radio Rolling Stones pour la période janvier et février 2012. Pour répondre à la question de ses fans, Toulouse fait souvent un concert unique. Son premier concert a eu lieu en septembre 2011 au Centre culturel français Bandung, maintenant l'Institut français d'Indonésie IFI, intitulé « Une introduction ». Puis son concert « Beyond Sincère » à la Hall de culture de Jakarta au 25 mai 2012 et concert « Diorama » le 9 mai 2013 au théâtre fermé Dago Tea House, Bandung. À la fin d'août 2013, Toulouse a publié sa piste « Sepatu » qui peut télécharger par iTunes ainsi qu'avoir la première place à la charte de iTunes d'Indonésie. On peut voir que la voix de Toulouse tient un rôle important dans son succès. D'autre côté, l'arrangement de chansons est si bon. Toutes les chansons ont été créées par Toulouse lui-même. Bon, ses amis dans quatre coins du monde, avant de terminer le magazine de musique avec le chanteur Toulouse, écoutez donc deux dernières chansons de Toulouse intitulées Gajah ou éléphant et Sepatu aux chaussures. Merci de votre attention et au revoir.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke akhir berenang. Bahagia melihat kawan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semu kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tameng. Tak tahu apa-apa wajah bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi rela jadi tamengku.
sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langkah bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekat kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Kedinginan kita sangat ingin bersama, oh. Tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama, tapi
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.